VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du lundi 25 décembre 2017, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Joyeux Noël Anne, joyeux Noël à tous.
Joyeux Noël Idrissa, joyeux Noël à tous.
Et nous commençons par les titres.
Au Liberia, le vice-président Joseph Boakai, confiant dans sa victoire face à George Weah au second tour de la présidentielle de demain.
Au Soudan du Sud, rebelles et gouvernements s'accusent de violation du cessez-le-feu, signé seulement jeudi dernier.
Arrivée du président turc Recep Tayyip Erdogan hier au Soudan, première étape d'une tournée qui le conduira ensuite au Tchad et en Tunisie.
En Afghanistan, 6 personnes ont été tuées dans un attentat suicide à Kaboul, près d'une antenne des renseignements.
À Rome, le pape François a demandé aux catholiques de ne pas ignorer le drame des migrants dans une homélie de Noël.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Veillée d'armes au Liberia avant le second tour de la présidentielle prévu demain, il opposera le vice-président du Liberia, Joseph Boakai, à l'ex-star du football et sénateur George Weah. Le point avec Jean-Roger Bion.
Le vice-président Joseph Boakai, arrivé deuxième lors du premier tour, loin derrière George Weah, s'est montré confiant hier. La victoire est mienne, a-t-il déclaré à son arrivée à une réunion de campagne dans un quartier populaire de la capitale Monrovia. Il a qualifié l'atmosphère de sa campagne de très joyeuse. Tout le monde est excité, attend le scrutin. Monsieur Boakai, âgé de 73 ans, est vice-président d'Ellen Johnson Sirleaf depuis 12 ans. De son côté, George Weah, 51 ans, a réuni plusieurs dizaines de milliers de ses partisans dans le plus grand stade de Monrovia samedi. Arrivé en deuxième position lors du premier tour de la présidentielle le 10 octobre, avec 28,8% des voix contre 38,4% pour George Weah, le vice-président sortant a contesté pendant des semaines ce résultat devant la Commission électorale nationale, puis devant la Cour suprême, arguant que le scrutin avait été entaché de fraude et d'irrégularité. Prévu initialement le 7 novembre, le second tour a été repoussé au 26 décembre après le rejet de ses recours.
Au Soudan du Sud, à peine signé, le cessez-le-feu a été violé. Le gouvernement et le principal groupe rebelle du pays s'accusent mutuellement de n'avoir pas respecté l'accord signé jeudi à Addis Abeba. Abdourahmane Dia.
Le groupe rebelle de l'ex-vice-président Riek Machar a accusé hier les forces gouvernementales d'avoir lancé une attaque agressive contre leur position dans la ville de Bie Payam, dans le nord, ainsi que dans le comté de Yé, dans le sud-ouest. Pour le porte-parole du groupe, Lampol Gabriel, toutes ces actions sont dirigées contre le processus de paix. Le gouvernement de Juba veut que la SPLA-IO réplique afin que la guerre se poursuive et qu'il continue à piller les ressources du pays, a-t-il indiqué. Pour sa part, le porte-parole de l'armée, Lulrao Kang, a démenti l'information, accusant à son tour les rebelles de graves violations du cessez-le-feu ailleurs dans le pays. Il a affirmé que les rebelles avaient attaqué un convoi de l'administration qui essayait de livrer des produits alimentaires et des salaires pour Noël dans l'état d'Amadi, dans le sud. L'armée accuse aussi les rebelles d'avoir attaqué la police militaire à Awel East, dans le nord-ouest. Ces combats ont eu lieu après un nouveau cessez-le-feu signé jeudi à Addis Abeba par le gouvernement et plusieurs groupes armés.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé dimanche à Khartoum, où il a rencontré son homologue soudanais Omar el-Béchir et signé plusieurs accords bilatéraux. Cette visite officielle de 2 jours est la première au Soudan pour M. Erdogan, qui ira ensuite au Tchad puis en Tunisie. Omar el-Béchir est visé par 2 mandats d'arrêt internationaux émis par la Cour pénale internationale en 2009 et en 2010 pour crimes de génocide au Darfour.
La Tunisie a annoncé hier soir avoir décidé de suspendre les vols de la compagnie aérienne Emirates à la suite d'une mesure ciblant les Tunisiennes et qui fait scandale dans ce pays. Depuis vendredi, les Tunisiennes, quel que soit leur âge, ont été provisoirement empêchées d'embarquer sur des vols pour les Émirats arabes unis sans qu'aucune explication ne leur soit fournie. Les hommes, quant à eux, ont été invités à embarquer.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Afghanistan, 6 civils ont été tués aujourd'hui dans un attentat suicide près d'un bureau des services de renseignement afghans à Kaboul, a annoncé un porte-parole du ministère de l'Intérieur. Cette attaque, réalisée au moment où les employés arrivaient à leur bureau, intervient une semaine après un assaut contre un centre d'entraînement des mêmes services dans la capitale afghane.
À Rome, dans une homélie de Noël appelant à l'hospitalité, le pape François a dénoncé le drame des migrants de la planète, souvent expulsés de leur terre par des dirigeants prêts à verser du sang innocent. Précision de Jean-Roger Bion.
L'Argentin Georges Bergoglio, lui-même petit-fils de migrants italiens, a fait du sort des réfugiés l'un des thèmes fondamentaux de son pontificat entamé voici près de 5 ans. L'enfant Jésus est né dans une étable à Bethléem, une terre où il n'y avait pas de place pour ses parents en fuite, a dit le pape, avant d'ajouter que Dieu donne à tous un document de citoyenneté. Pour le pape, Noël, c'est le temps pour transformer la force de la peur en force de la charité. Personne ne doit sentir qu'il n'a pas sa place sur cette terre, a plaidé le pape, prônant une nouvelle créativité sociale. Dieu nous invite à être des sentinelles pour beaucoup de personnes qui ont cédé sous le poids du désespoir qui naît du fait de trouver fermées de nombreuses portes, a insisté François, appelant les croyants à balayer l'indifférence et à décliner l'hospitalité et tendresse. Le chef des 1,3 milliard de catholiques dans le monde, qui vient de fêter ses 81 ans, adressera son 5e message de Noël Urbi et Orbi à la ville et au monde, lundi, devant les fidèles massés sur la place Saint-Pierre de Rome.
À Bethléem, en Cisjordanie, lieu de naissance de Jésus, l'atmosphère était différente comparée aux années précédentes. De nouveau, Abdurrahman Dia.
Des scouts palestiniens ont défilé hier à Bethléem au son de la cornemuse et des tambours pour fêter Noël. Mais cette année, ces célébrations ont été assombries par les tensions suscitées par la reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale d'Israël. La décision prise le 6 décembre par le président Donald Trump a provoqué des manifestations quasi quotidiennes dans les territoires palestiniens, y compris à Bethléem, en Cisjordanie occupée. Selon l'archevêque Pierre Battista Pizzaballa, un haut dignitaire catholique romain du Proche-Orient, l'annonce de M. Trump a créé des tensions autour de Jérusalem et détourné l'attention de Noël. Sur la place de la Mangeoire à Bethléem, l'ambiance paraissait plutôt morose dimanche, malgré les chants de Noël diffusés par des haut-parleurs. Quelques centaines de Palestiniens et de touristes ont bravé un vent froid pour regarder la parade des scouts près de l'église de la Nativité construite sur le site où, selon la tradition, Marie a donné naissance à Jésus. Depuis la montée des tensions liées à la décision américaine, les gens sortent peu, a dit un Palestinien de confession chrétienne.
Le président du Guatemala, Jimmy Morales, a annoncé hier le transfert à Jérusalem de l'ambassade de son pays en Israël en soutien à la décision des États-Unis et malgré le vote de condamnation de l'Assemblée générale de l'ONU. Premier chef d'État à emboîter le pas à Washington, le président Morales a rendu compte sur les réseaux sociaux d'un entretien téléphonique qu'il a eu auparavant à ce sujet avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
Les nouvelles sanctions onusiennes contre la Corée du Nord ont valu au président américain Donald Trump les compliments plutôt rares d'un sénateur démocrate influent. Ben Cardin, vice-président de la Commission sénatoriale des Affaires étrangères, a qualifié la résolution parrainée par les États-Unis contre Pyongyang de « bonne décision et de réalisation majeure » lors d'une interview hier à Fox News. M. Cardin s'est félicité du fait que la Chine et la Russie ont entériné ces sanctions contre la Corée du Nord à cause de ces tirs continus de missiles balistiques. Selon lui, la prochaine étape doit être la diplomatie, de concert avec Pékin et Moscou, pour relâcher les tensions et faire changer de comportement le régime de Kim Jong-un. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
La chute des recettes pétrolières continue de peser sur l'économie des pays de la zone CEMAC. D'après le FMI, la croissance a fortement reculé depuis 2014. Les dépenses publiques ont diminué dans la plupart des pays qui ont accumulé des déficits budgétaires durant cette période. Les perspectives à court terme de la région demeurent faibles. Le secteur financier continue de montrer des signes de faiblesse avec une diminution des dépôts bancaires, un crédit à l'économie en stagnation et une hausse des prêts improductifs. de la décision de la Banque des États de l'Afrique centrale de mettre en place un dispositif d'apport de liquidités d'urgence pour appuyer les banques des six États de la CEMAC, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Tchad et République centrafricaine. L'Égypte veut renforcer la coopération commerciale et économique avec le bloc sud-américain. Pour y arriver, le Caire a décidé d'intégrer le Mercosur, l'Organisation des États membres du marché commun du Sud. L'accord de libre-échange qui existait déjà depuis 2010 a permis à l'Égypte d'enregistrer plus de 5 milliards de dollars en 2016 provenant des échanges commerciaux. Le Mercosur est le troisième marché intégré au monde dont les importations ont atteint 235 milliards de dollars en 2016.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Première édition de la Coupe des Nations de l'UFOA chez les dames. Le tirage au sort de la composition des groupes aura lieu demain mardi à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Exactement, et cette compétition concerne les 8 pays de la zone B de l'UFOA. Ils seront donc répartis dans deux groupes de 4 équipes. La Côte d'Ivoire, pays hôte, et le Nigeria, respectivement tête de poule A et B, sont logés dans le chapeau 1. Le Ghana et le Sénégal dans le chapeau 2. Le chapeau 3 regroupe le Burkina Faso et le Bénin. Et puis le chapeau 4 pour le Togo et le Niger. Précisons que la compétition va démarrer en février prochain, toujours à Abidjan.
En République démocratique du Congo, Constant Omari, réélu à la tête de la Fédération du football congolais.
C'est à l'issue d'une assemblée générale élective qu'il a été réélu comme président de la FECOFA pour un nouveau mandat de 4 ans. Constant Omari a recueilli le maximum de voix de vote, soit 28 sur 28. Il était seul candidat à ce poste après la disqualification de son concurrent, dont la candidature a été jugée non conforme par la commission qui organisait le scrutin. L'homme promet de remettre de l'ordre dans ce football et a demandé de l'accompagner.
Si nous avons aujourd'hui évolué, il n'y a que l'abnégation, l'objectivité, le leadership qui devront nous permettre d'aller de l'avant. Le football congolais aujourd'hui constitue l'une des activités qui fédère ce peuple. Il n'y a de raison aucune que nous puissions lui gâcher cette expression. C'est pour cela que je voudrais principalement demander à la Linafoot, autant que je leur ai demandé lors des réunions en aparté, d'assurer la grande vigueur et la grande rigueur d'application des textes et de dire le droit et de mettre un terme à des petits arrangements de tiroirs et de bureaux. Si nous voulons aujourd'hui exister sur des bases sereines, c'est notre propre comportement qui devra le dicter. C'est ainsi qu'à mes collègues qui viennent d'être élus, je leur demande de la disponibilité, du discernement, de l'abnégation et du travail. Le président que je suis ne peut pas tout faire, mais il a besoin de ses collègues. Il a besoin de vous, messieurs les délégués, vous les présidents des ligues, pour pouvoir travailler.
À l'instant, Constant Omari, président de la Fédération Congolaise de Football Association. À 59 ans, il dirige la FECOFA depuis 12 ans. Propos recueillis par Thierry Kamboundi.
Direction la Tunisie, Faouzi Benzarti n'est pas l'entraîneur de l'Espérance sportive de Tunis.
Le technicien tunisien a décidé de quitter hier son poste après le match nul concédé samedi lors de la dernière journée de la phase aller du championnat face au club sportif sfaxien. Hué par le public sang et or, Benzarti a préféré jeter l'éponge. Selon les dernières informations, le président Hamdi Medeb a accepté sa démission. Le directeur technique Modé Kebey dirigera l'équipe mercredi prochain à l'occasion de la réception de CEO Medenine pour le compte de la phase retour du championnat.
Handball à présent et la CAN aura lieu au Gabon en janvier prochain.
Oui, précisément du 17 au 27 janvier 2018. Et dernière inspection des travaux à Libreville pour une délégation de la Confédération africaine avant le début de cette compétition. A noter aussi la présence du patron du handball africain, le béninois Aremu Manzourou. Occasion pour lui de vérifier que le premier palais des sports de Libreville sera bien opérationnel pour abriter les rencontres de cette CAN. L'ancien président de la Fédération béninoise de handball a pu quitter le pays rassuré.
Le Bénin, on y va cette fois avec la fin du championnat national de handball.
Floès a réalisé le doublé devant Aspac. Chez les hommes, les protégés d'Aimé Sebio ont dominé les Portugais sur le score de 27 à 24. plus serré chez les dames, 31-30, avec une belle prestation des filles du port autonome de Cotonou. Ainsi, par ces deux victoires, Floès a bien annoncé les festivités de ses 20 ans de création.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sédoudia. Maintenant, nos dossiers du jour. Au Mali, l'ancien président Amadou Toumani Touré, qui était en exil à Dakar, est de retour dans son pays depuis hier. Un accueil chaleureux lui a été réservé par une foule immense à Bamako. Ce retour d'ATT est placé sous le signe de la paix et de la réconciliation nationale. Reportage de notre correspondant Kassim Traoré.
La foule venue accueillir ATT a failli le faire retourner à Dakar, car il a fallu 30 minutes d'attente pour qu'ATT puisse fouler le sol national. Les forces de l'ordre ont été débordées par la marée humaine. Abdoulaye Traoré, fan du président ATT.
Ils sont venus parce que c'est le père de la démocratie malienne. En plus encore, c'est le président qui a beaucoup travaillé pour le Mali. Et nous sommes très fiers de lui. C'est Dieu qui a voulu comme ça. Mais il aime son pays. Et je crois qu'il y a beaucoup, il y a même des milliers de personnes, disons des millions de personnes qui ont négocié pour son retour et qui voulaient qu'il retourne.
Tellement il y avait du monde, ATT n'a pu saluer les personnalités et les membres du gouvernement qui sont venus l'accueillir. C'est après que son cortège a fait demi-tour afin qu'il puisse serrer la main des uns et des autres dans les salons d'honneur. Boubacar Saliandao.
Ce retour pour beaucoup change. Aujourd'hui, ATT, par rapport à la crise du Nord, qui peut connaître les tenants et les aboutissants de cette crise du Nord mieux que Amadou Toumani? Il n'y en a pas. La situation que le Mali vit aujourd'hui, Amadou Toumani Touré l'a vu depuis des années. Il a dit, ces jours-là, on n'a pas les écoutez, malheureusement, c'est arrivé. Mais nous pensons qu'avec son retour, il peut faire beaucoup de choses. Il peut être un conseil pour le président Ibrahim Boubacar. Il peut être un conseil pour le peuple malien. Et ça peut beaucoup changer.
Le retour d'ATT n'a rien de calcul politicien. Fatmata Sako, dite Gina, secrétaire aux relations extérieures du parti PDS.
Que nous mettions le Mali au-dessus de tout. Comme on dit, il faut savoir raison garder et parler avec la tête et non le cœur. Que les Maliens comprennent qu'il n'y a pas de calcul politique, il n'y a pas de calcul politicien. Le président revient à son pays. C'est pour la paix, même le Mali, plus que tout.
Si les Bamakois se sont mobilisés, force est de reconnaître que certains Maliens de la diaspora n'ont pas voulu rater ces rendez-vous. Sega Dougouré, Malien vivant en France.
Je pense que c'est une occasion que je ne voulais pour rien au monde rater. Non seulement j'ai connu ATT dans un autre monde, un ami, il a été président de la République dans ce pays. Nous, la diaspora, il a fait beaucoup de choses avec nous. Et pour nous, c'est un grand jour pour le Mali. Moi, j'ai le sentiment que 2018 est une page importante du Mali qui se tourne. Après cette période pendant 5 ans que nous avons connue, ces troubles, ces moments difficiles que nous vivons également, je pense que c'est un moment historique. Ibeka vient ainsi d'inaugurer.
Ce retour d'ATT au Mali, après 5 ans, 8 mois et 5 jours d'exil à Dakar, est le signe de la réconciliation nationale. Amane Touré Di Serpent, président du CSATT.
Bien sûr, c'est fait exactement pour la paix et la réconciliation. Parce que c'est les amis d'ATT, les amis de l'Hadji Ibrahim Boubacar Keïta, ils sont retrouvés. Tous les parties du Mali sont là. Donc il n'y a pas question d'opposition, rien. Ce n'est que la paix et la réconciliation. Ce retour n'a rien de politique. Moi, je ne suis pas Ibeka, mais aujourd'hui, je lui dis merci. Donc ça n'a rien de politique. Je ne suis pas dans son parti, je ne suis pas dans la mouvance présidentielle, mais voilà, c'est lui qui a osé. Alors, qu'est-ce qu'il y a ça de politique? À ma faveur, moi, donc ce n'est pas politique, à la faveur de son parti, non?
ATT a remercié le président Ibeka pour avoir facilité son retour au Berkay. Il a prié pour toutes les victimes de la crise malienne, a signalé que l'ancien président malien est revenu avec son épouse et ses enfants. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Cameroun, les promoteurs et professionnels des médias s'insurgent de plus en plus contre les sanctions du Conseil national de la communication à leur encontre. Pour rappel, cet organe placé sous l'autorité du Premier ministre est chargé de réguler la presse dans le pays. Ces récentes sanctions ont, à titre d'exemple, interdit définitivement l'exercice de la profession de journaliste à Roger Chantal Tuilé, un directeur de publication. Mais l'application et le respect des sanctions du Conseil national de la communication restent moins sûrs. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Ntap.
J'ai l'impression qu'il y a des complicités et que le Conseil national de la communication ne travaille que pour des personnalités de ce pays.
Le Cameroun n'a pas besoin qu'on vous dise qu'on a fermé un média.
Deux avis très tranchés des journalistes camerounais sur le rôle du Conseil national de la communication. Deux avis qui traduisent le désamour entre l'organe régulateur de la communication et certains professionnels des médias au Cameroun. Et c'est en public que la résistance aux sanctions du Conseil s'opère déjà. Jules-Brice Gaba, directeur de publication du journal Le Pélican, suspendu pour une durée de 3 mois le 19 décembre dernier.
Personne ne peut respecter ça. Ils ont suspendu et perdu combien de fois? Mais ils perdent, ils sortent tous les jours. Mais le Conseil de la communication prend ses décisions sans consulter le ministère de la communication. C'est-à-dire que le ministère de la communication ne peut rien dire au Conseil.
Comme lui, un journaliste de la chaîne de télévision Vision 4 a bravé sa suspension depuis le 19 décembre dernier, sanctionné lui aussi, mais avec des vices de procédure. Henri Etienne Tobi, directeur de publication du journal L'Éveil républicain, parle de son cas.
Au niveau du Conseil national de la communication, dans mon mémoire, j'ai eu à produire les éléments qui étaient que le ministre n'avait pas droit de vendre le terrain qui appartenait à des communautés. Je suis surpris, la dernière décision, sans que je sois convoqué, je me retrouve avec un avertissement.
Le pic de la discorde entre le Conseil national de la communication et les médias camerounais a été atteint dans l'affaire Afrique Média. Une télévision panafricaine dont les locaux de Yaoundé sont restés fermés pendant 8 mois. Albert Patrick Keya, directeur de l'information d'Afrique Média, évoque un acharnement continu contre son média.
Moi, malgré le fait d'avoir perdu au tribunal, il y a cela 3 ou 4 mois, le CNC écrire au câble aux distributeurs, leur disant que nous, on avait perdu le procès. Ils ont demandé au câbleur de retirer notre signal dans le réseau. Apparemment, Afrique Média dérangeait.
Des allégations que VOA Afrique n'a pu vérifier, le président du Conseil national de la communication étant absent à son bureau lors de notre passage et son principal collaborateur étant en mission hors de la ville. Reste que l'opinion publique semble pencher un tout petit peu en faveur de l'organe régulateur de la presse au vu des dérives à répétition dans certains médias camerounais.
Vous voyez quelqu'un qui se lève et qui publie dans son journal la mort de quelqu'un qui est encore vivant. Quand vous suivez certaines chaînes de radio, mais à un moment donné, vous voyez comment est-ce que les gens suscitent la haine dans le cœur des uns et des autres.
Yaoundé, Emmanuel Jultap, VOA Afrique.
De nouveaux réalisateurs sur le marché du cinéma centrafricain, 10 cinéastes formés cette année à l'Alliance française de Bangui ont présenté la semaine dernière leur film documentaire au public. Projection faite dans le cadre du festival Filmer le Monde, reportage de Freeman Sipila.
En 7 semaines de formation, 10 réalisateurs ont pu produire 10 films documentaires, des histoires fascinantes tournées à Bangui et dans sa périphérie. Dans son court-métrage de 23 minutes, dénommé « Dieu béni rend son arme », Tanguy Diaka a suivi un ex-anti-balaka démobilisé, mais qui attend impatiemment le programme national de désarmement.
Un ex-anti-balaka, puisqu'il s'est déjà fait désarmer, et je l'ai suivi, il a rendu son arme, il a attendu, il s'inquiétait un peu, et puis je l'ai suivi jusqu'au niveau de l'unité d'exécution du programme national de DDR, et on lui a donné des solutions, qu'il fera des formations professionnelles afin qu'il s'occupe quelque part pour ne pas avoir l'idée de retourner dans la rébellion. C'est à peu près ça mon idée.
Pascal Apora a choisi un sourd muet comme acteur principal de son documentaire intitulé « Mes yeux pour entendre ».
Mes yeux pour entendre, il s'agit d'un petit garçon sourd qui, étant sourd et dans une famille qui l'aime beaucoup, il est élevé par sa grand-mère et malgré son handicap, il vit comme tous les autres enfants, il a une vie normale. Donc il joue avec ses frères à la maison, il effectue des tâches ménagères, il va à l'école des sourds et il va aussi au culte. Il assiste à un culte dans lequel on traduit tout en langue de signes. Donc il a une vie normale.
Le public venu nombreux découvrir ses réalisations purement centrafricaines a été émerveillé. Marie-Virginie se dit épatée marquée par le travail de ces jeunes cinéastes.
Vous savez, en 7 semaines, produire un film de ce genre par des centrafricains, c'est génial. Je souhaiterais qu'on leur octroie des bourses afin qu'ils aillent à l'extérieur approfondir ce qu'ils ont appris ici. Parce que généralement, quand ils apprennent, c'est juste pour un laps de temps et après, on les laisse tomber. Vous voyez, c'est ce qui fait qu'on dit qu'en Centrafrique, rien ne marche, rien ne va parce qu'il n'y a pas de suivi.
La formation de ces cinéastes, lancée le 30 octobre dernier, a été assurée par les ateliers Varan basés en France en partenariat avec l'Alliance française de Bangui. Bruno, l'un des formateurs français, se réjouit lui aussi de ses réalisations.
Moi, je suis impressionné parce qu'on a pris des stagiaires qui venaient un peu, si je puis dire, de nulle part. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'école de cinéma à Bangui, il n'y a pas de même de formation de journalisme très poussée. Donc on a pris des gens qui n'avaient pas un CV de réalisateur, qui n'avaient pas une expérience de réalisation. Donc ils venaient presque comme des débutants. Et puis en 7 semaines, alors avec un travail acharné, hein, mais en 7 semaines, ils ont fait ces films qui sont vraiment très très bien, qui sont dignes de festivals internationaux. Moi, je suis sûr aujourd'hui que ces films vont voyager.
Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, le mouvement citoyen Le Ras-le-Bol a procédé hier à la distribution de jouets aux enfants déplacés du Pool. Elle a eu lieu, cette distribution, à Kinkala, le chef-lieu du Pool, où le gouvernement et les miliciens ninja du pasteur Ntoumi ont signé un accord de cessez-le-feu. De Brazzaville, notre correspondant Ngwela Ngusu.
Après près d'un mois de collecte de jouets et d'argent, les membres du mouvement citoyen Le Ras-le-Bol ont fait le partage auprès des enfants sinistrés du Pool. Pas assez de jouets pour tous les enfants, reconnaît Franck Ndilamalembe, le coordonnateur du Ras-le-Bol.
Ce sont les pauvres qui ont beaucoup donné. Les mamans du marché, les gens qui vivent dans les quartiers, c'est eux qui ont vraiment été sensibles. Donc c'est les pauvres qui ont donné plus que tout le monde. Très content parce qu'on a réussi à faire tous les arrondissements de Brazzaville, à toucher tout le monde. Bah, y a un double objectif. Le premier objectif, c'était aujourd'hui de parler du Pool qui vit une guerre difficile, il fallait en parler parce que beaucoup de gens semblent oublier qu'aujourd'hui il y a 138 000 déplacés, il y a plus de 400 villages qui ont été détruits. Le deuxième objectif de cette campagne, c'est qu'il y a une fête de Noël qui est là. Il y a des enfants qui psychologiquement ont vécu des moments difficiles et il est nécessaire pour ne pas que demain on puisse revivre les mêmes choses. Il faut que ces enfants puissent jouer à des jeux, puissent passer un Noël où ils oublient tous les moments difficiles qu'ils ont passés.
Avec le peu de dons reçus, les membres du Ras-le-Bol ont choisi des jouets accessibles à tous les enfants. Luce Ngangwe, surprise dans un marché de Brazzaville, en train d'acheter les jouets.
Et donc là, nous sommes en train de vérifier les prix et la qualité des jouets que nous allons acheter pour les acheter en gros. Pour en avoir au maximum. Bon, pour les filles, nous sommes partis sur la base de poupées. Et pour les garçons, on achète des voitures et des ballons. Bon, on ferait avec ce qu'on a pu collecter sur le terrain. Donc, c'est avec l'argent qu'on a qu'on est en train de discuter les prêts.
Après avoir fui les violences dans leur village, les enfants du Pool manifestent le besoin d'une grande assistance, surtout en ce temps des fêtes de fin d'année. Brice Makosso de la commission diocésaine Justice et Paix de Pointe-Noire.
Il y a deux types de cadeaux. Il faut offrir le cadeau de la paix. Le pasteur Ntoumi, il est chrétien et les autorités de notre pays, c'est des chrétiens. Et Noël, c'est la naissance du Christ, du Fils de Dieu, le Prince de la paix. Et donc, il faudrait offrir le premier cadeau de la paix aux populations du Pool. La seconde chose que nous demandons, c'est une solidarité vis-à-vis des enfants du Pool. Ces enfants du Pool, ils n'ont pas demandé la guerre, ils n'ont pas demandé ce conflit. Alors, il faudrait leur donner un tout petit jouet. C'est nous qui avions créé ces déplacés. C'est le gouvernement, c'est Monsieur Ntoumi.
Les jouets ont été distribués dans 5 sites à Kinkala. Quelques 300 enfants ont pu être servis, selon Charlène Kinwani.
Nous allons identifier les enfants parce qu'il ne faudrait pas qu'à la fin on soit débordé par rapport au nombre de jouets qu'on aura et le nombre d'enfants. C'est en fonction de ce que nous avons reçu et la distribution se fera aussi sur cette base-là.
Un autre cadeau de Noël pour les enfants du Pool, le gouvernement et les miliciens ninja du pasteur Ntoumi ont signé un accord de cessez-le-feu pour la cessation des hostilités dans ce département. Ngwela Ngusu, Brazzaville, VOA Afrique.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau. Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, Rendez-vous en direct dans Sporama 19h, temps universel. Pour participer, c'est très simple, vous pouvez nous appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idriss Assidoudia à Washington. Joyeux Noël et bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.